L'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Vincent Lemire, historien spécialiste de l'histoire de Jérusalem, avec de nombreux ouvrages dédiés. Alors je la fais courte, hein, parce que vous êtes docteur et que vous êtes chercheur, donc je la fais courte. Pour moi, vous êtes spécialiste de l'histoire de Jérusalem et d'Israël. Vous avez sorti une bande dessinée, l'histoire de Jérusalem, avec les dessins de Christophe Gauthier, et la retranscription des podcasts que vous animez sur France Inter avec Thomas Znegaroff, en livre aussi Israël, Palestine, anatomie d'un conflit. C'est aux éditions Les Arènes. Vincent Lemire, bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous recevoir. Je reçois un grand professionnel. Ça me met une pression supplémentaire. Je profite de votre venue à Strasbourg. Vous êtes venu à l'invitation du Mouvement européen Alsace pour animer une conférence avec Alexis Vallas, intitulé « Israël-Palestine, l'Europe peut-elle faire la paix ?» Tout un programme.
Alors, la réponse était non. Hein.
Ah, vous avez la réponse, donc celle-ci, je peux la barrer.
On pourrait aider, mais...
Pour commencer, une question un peu personnelle pour votre intérêt, votre appétence pour Israël, Jérusalem et le conflit qui divise ce territoire du Moyen-Orient.
Je connais la région depuis les années 90. Mon premier voyage à Jérusalem, c'est 1995. J'ai des amis sur place. Et j'ai connu cette région vraiment au siècle dernier, au moment où on était très, très optimiste. On était en plein processus de paix, plein processus d'Oslo. Et je me disais, il y a besoin d'historiens à Jérusalem, il y a besoin d'historiens peut-être justement qui ont peu d'attache en fait avec le pays. Donc mon appétence, c'était que voilà, je voulais faire l'histoire de cette ville, l'histoire. J'ai travaillé pendant 8 ans sur l'eau à Jérusalem, enfin sur des choses très très concrètes, très très matérielles. Et c'est sur le plan scientifique, sur le plan intellectuel, évidemment, c'est un espace de travail qui est absolument incomparable. Donc en fait, j'arrive pas à partir de Jérusalem. J'ai travaillé depuis 1999, j'ai fini ma thèse en 2006. Après, j'ai été chercheur dans les années 2012-2014. Je suis revenu directeur. Comme directeur du Centre de recherche français à Jérusalem de 2019 à 2023, à chaque fois je pense que je m'en vais et à chaque fois j'y reviens.
Alors aujourd'hui, vous posez un regard d'historien sur ce conflit. Et bien avant le 7 octobre, vous le disiez, le clivage de l'opinion aujourd'hui en France lié à une interprétation et une récupération politique, mais aussi l'émotion, le poids des images, l'instantané des réseaux sociaux. Et quel recul est nécessaire pour avoir une forme de compréhension des faits? Il ne faut pas qu'on soit dans l'immédiateté. Alors, je parlais de l'historien, bien évidemment. Vous allez me dire qu'on ne peut pas analyser une situation aussi tragique qu'elle soit sur un moment précis. Donc, les faits ne partent pas du 7 octobre 2023.
Bien sûr, mais en même temps, il faut accueillir l'émotion. Il faut faire une place à l'émotion. C'est ce que j'essaie de faire. Je disais, dès le 8 octobre 2023, j'étais au micro de France Inter avec Elie Barnavi, qui était lui à Tel Aviv. Et j'ai essayé de ne pas m'enfermer dans la posture froide de l'expert qui analyse. Parce que il faut accueillir l'émotion, il faut la rendre légitime, il faut vraiment être à l'écoute de cette émotion. Et puis, il faut essayer à un moment de la raisonner, de la réguler aussi.
Il faut qu'elle soit étayée par des faits.
Il faut qu'elle soit étayée par des faits. Et puis, il faut, c'est aussi même psychiquement, hein, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent en lisant cette bande dessinée ou en écoutant ce podcast, qui me disent ça m'a fait du bien, presque physiquement, en fait. Parce que si on reste seulement dans le trauma, ça vaut aussi pour des Palestiniens avec ce qui se passe à Gaza, si on reste seulement dans le trauma, on s'y enferme, et même physiologiquement, psychiquement, c'est très très dur. Donc mon travail d'historien, hein, c'est pour ça que les pouvoirs publics payent des historiens, en fait, hein. Il y a des psychanalystes, et puis
bien
il y a des historiens.
Bien sûr.
C'est un peu une psychanalyse collective. Bah, c'est de, allez, on essaye de réfléchir. On ne repousse pas les émotions, mais voilà, on rappelle que rien, mais c'est comme dans nos vies personnelles, rien ne démarre jamais à l'instant T. Il y a toujours des généalogies, il y a toujours des origines. Donc dans ce podcast, par exemple, avec Thomas Negaroff, anatomie d'un conflit, on a fait 6 chapitres, de 1897 jusqu'à 2007. On a choisi que des dates en 7, parce que c'est plus facile pour s'en souvenir. 1897, Herzl, bien sûr. 1917, la Première Guerre mondiale. 1947, le plan de partition. 1967, la guerre des 6 jours. 1987, la première intifada. Et puis 2007, la prise de pouvoir dans la bande de Gaza par le Hamas. Voilà, comment on peut, en 6 dates, raconter un peu ce conflit israélo-palestinien et pour comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là.
Je parlais d'émotion, de colère. Est-ce que vous entendez qu'aujourd'hui, dans la communauté juive, alors je connais mieux celle de Strasbourg, mais en général au niveau national, voire européen, sur toute la diaspora, on est en colère, peut-être moins que les Israéliens qui, eux, sont plus dans l'action et qui ont un moyen d'avancer parce qu'ils sont... Ils sont poussés par cette motivation profonde. Ici, on se sent assez impuissant. Est-ce que vous entendez cette colère ?
Ah, mais je pense que votre hypothèse est la bonne. Je l'ai dit très, très souvent. Il y a une qualité de débat et d'échange bien meilleure en Israël et d'ailleurs en Palestine qu'en France. Mais parce que vous avez raison. Là-bas, ils sont en première ligne. Et là-bas, ce n'est pas seulement des discussions théoriques. C'est qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on reste ? Est-ce qu'on s'en va ? Est-ce que les enfants font l'armée ? Est-ce qu'ils ne font pas l'armée ? Ça vaut pour les Palestiniens aussi. Est-ce qu'on reste à Gaza ? Est-ce qu'on s'en va ? Les gens qui sont sur place, je pense tous les gens qui nous écoutent, qui connaissent des habitants d'Israël ou de Palestine, savent que pour eux, voilà, pour eux, c'est des questions existentielles, vitales, familiales, quoi. En France, c'est plus des polémiques qui sont parfois effectivement très très polarisantes. Et peut-être justement parce que chacun se sent un petit peu impuissant. De fait, on est impuissant. Qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Alors, ce dont moi je me sens responsable, je suis prof, je suis enseignant, je suis prof à l'université, donc je suis responsable de mes étudiants, j'interviens dans le débat public, donc je suis responsable d'apaiser autant que possible le débat public.
Vous faites des interventions dans ce sens-là ?
Voilà, ça on peut agir. On peut agir et depuis le 7 octobre, j'essaye d'intervenir dans ce sens-là. La première bataille sémantique que j'ai menée, c'est de dire ce sont des actions terroristes. Dès le 8-9 octobre, je l'ai dit, Et je l'ai écrit et je l'ai développé, etc. Comment peut-on ne pas considérer que ce sont des attaques terroristes quand on tue 1200 personnes et que ça terrorise 7 millions de personnes? C'est un acte terroriste, c'est un mode opératoire. Et donc voilà, il y a des choix de mots, il y a des batailles qu'il faut mener.
Justement,
pour
qu'on vous
puisse construire une conversation
de commune. Sémantique quand il s'agit du mot génocide ou apartheid. Comment est-ce que vous les interprétez ?
On fait de la pédagogie et moi j'arrive à... Le mot génocide, moi j'en parle sans aucun problème. Le crime de génocide après la Deuxième Guerre mondiale, c'est le seul crime pour lequel on a considéré qu'il était trop grave pour qu'un juge ne s'interpose qu'après qu'il soit commis. Et Israël, qui était signataire de la Convention de 48, qui est toujours signataire, a beaucoup insisté pour que ce soit une convention, non pas seulement sur la répression du crime de génocide, mais sur la prévention. Donc ça veut dire, c'est très compliqué à comprendre, ça veut dire que c'est le seul crime pour lequel le juge intervient avant qu'il soit commis. Si je pense que vous voulez voler une voiture la semaine prochaine, je n'ai pas le droit de vous arrêter. Même si j'arrive à prouver que vous voulez vraiment voler la voiture. Tant que vous ne l'avez pas volée, personne ne peut intervenir, judiciariser. Le crime de génocide, et les Israéliens de 1948, c'était le plus jamais ça. Ça ne doit pas arriver. Et donc c'est le seul pour lequel le juge doit intervenir avant que ça arrive. Donc la question qui nous est posée aujourd'hui et qui est posée au juge de la CIJ, c'est pas est-ce qu'il y a génocide en cours, c'est est-ce qu'il y a parmi des responsables sécuritaires ou politiques du gouvernement israélien des intentions génocidaires. Et puis il faut dire une deuxième chose, c'est que la définition du crime de génocide dans la convention de 1948, elle est très extensive. Et quand j'entends dire mais ça n'a rien à voir avec la Shoah, mais oui, mais La Shoah, à la limite, c'est presque une exception dans l'histoire des génocides. Un déplacement massif d'une population civile, c'est dans la Convention de 1948. Donc voilà, vous voyez, on peut... Là, j'ai pris quoi ? Une minute, deux minutes ? Avec ce mot qui est devenu presque une insulte dans le débat public français, si on dit que les juges de la CIJ, ils interviennent aujourd'hui pour que ça n'arrive pas, et que donc même si dans 10 ans, par exemple, on dit il n'y a pas eu, mais ça ne voudra pas dire que les juges n'auraient pas dû intervenir. Ils devaient intervenir pour que ça n'arrive pas. Donc, sur tous ces sujets-là, on peut réussir à apaiser, on peut réussir à rassembler plus de monde dans une même conversation sans s'insulter, sans s'invectiver.
Alors, aujourd'hui, même avec des aliments factuels, la rupture est consommée pour longtemps. Alors, vous préfacez votre livre « Israël-Palestine, anatomie d'un conflit ». Par le fossé n'a jamais été aussi profond entre les deux camps. Évidemment, vous parlez d'Israël, Palestine, Israël-Gaza.
Oui, mais pas seulement, en fait.
C'est plus large que ça.
C'est plus large,
bien sûr.
Fait. On voit que le monde, en ce moment, est vraiment fracturé, coupé en morceaux, et même d'ailleurs à l'intérieur même des communautés. On voit à l'intérieur de la communauté juive américaine et aussi à l'intérieur de la communauté française. Il y a des conflits qui sont vraiment extrêmement durs. Alors, un autre moyen d'apaiser les choses, c'est aussi peut-être de remonter encore plus en amont dans la chronologie. Ça, c'est ce que j'ai fait dans la bande dessinée, Histoire de Jérusalem. Donc là, c'est vraiment beaucoup plus ample. Mais c'est de raconter aussi les autres conflits, les autres périodes qui n'étaient... Voilà, et ces conflits se sont dénoués, ces conflits sont passés. Alors, d'une certaine manière, c'est un peu consolant, c'est un petit peu apaisant. Ça veut dire que si ces conflits ont pu se dénouer, eh ben, celui-là finira par se dénouer.
Fatalement, pour vous, c'est la seule issue possible. Ça va se dénouer à un moment donné. Vous n'êtes pas pessimiste sur ce point-là.
Non, moi, je suis un indécrottable optimiste. C'est sûr que là, on est dans une période extrêmement difficile, extrêmement dure, extrêmement douloureuse. Il est probable qu'on traverse encore des catastrophes qui sont devant nous dans les mois ou dans les années à venir. Mais voilà, de la mer Méditerranée au Jourdain, il y a 7 millions de Juifs qui y habitent, il y a 7 millions de Palestiniens. Et une partie de ces Palestiniens vivent en Israël, d'autres vivent en Cisjordanie, d'autres vivent à Gaza. C'est 7 millions de personnes, c'est pas quelques dizaines ou centaines de personnes. Non. Donc, de toute façon, ces 14 millions de personnes vont devoir coexister, cohabiter, soit dans la violence, soit dans l'apaisement. Il n'y a pas de troisième façon. Évidemment, je plaide pour l'apaisement et pour la coexistence. C'est de plus en plus difficile, de plus en plus inaudible aujourd'hui. Mais en historien, sur la longue durée, je constate que c'est ce qui va se passer. Cette terre a toujours été partagée. Cette terre a toujours été habitée par des communautés très, très diverses. Et quand d'ailleurs une seule des communautés a voulu se l'approprier en exclusivité, c'est ce qui s'est passé au moment des croisades. Hein, les royaumes latins de Jérusalem, c'était ça en fait. Hein, c'était presque une exception dans la longue histoire de cette région. C'est les croisés, ils ont massacré non seulement bien sûr les musulmans, bien sûr les juifs, mais aussi même tous les chrétiens qui n'étaient pas vraiment catholiques. Mais au bout de 80 ans, ça s'est terminé. Donc la vocation de la ville de Jérusalem ou de la région, c'est d'être d'une certaine manière partagé. J'ai bien dit partagé, pas forcément partitionné.
Ce qui est le cas déjà aujourd'hui, hein, avec le partage et l'esplanade des mosquées. On peut dire qu'effectivement, il y a Jérusalem ouest et est. Aujourd'hui, l'histoire de Jérusalem en BD, pour vous, c'était aussi une volonté de vulgariser, de peut-être de trouver un support plus ludique pour les gens qui ne voudraient pas effectivement se plonger dans toute l'histoire qui est si complexe que même les historiens aujourd'hui, entre eux, reviennent sur des faits. Mmh. C'était une façon d'être, on va dire, le plus abordable possible par un grand nombre.
Ben oui, une BD, c'est réconfortant. J'allais dire, d'abord, c'est des souvenirs d'enfance, une BD. Une BD, ça nous ramène toujours à notre enfance. On est à plat ventre sur la moquette chez notre grand-mère et on lit des BD. Donc, ça nous met dans une disposition d'esprit qui est celle-là, aussi dans une forme d'empathie avec les personnages qui évoluent dans cette histoire en images. Et puis ça nous laisse aussi de la place. C'est pas comme quand on regarde un film ou un documentaire. On voit des images et puis soi-même entre les images, on refait le film. C'est évidemment, ça permet de s'adresser à des plus jeunes. Bon, c'est une BD qui fait 250 pages, mais elle fait 10 chapitres de 25 pages. C'est à peu près 5 heures de lecture. Hein. Chaque chapitre, c'est à peu près une demi-heure de lecture. Donc, c'est pas 5 heures de lecture, c'est pas impossible. On peut lire.
Et chaque dialogue, chaque chapitre, voilà, justement, est sourcé. Et vous êtes allé chercher dans des archives. Vous ne l'avez pas sorti comme ça d'un livre d'histoire. Ce sont des histoires, des petites histoires qui rejoignent la grande.
Ben, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est une BD qui avance vraiment avec des scènes et des personnages et des dialogues. Mais comme c'est une BD faite par un historien, j'ai voulu que tous ces dialogues soient d'une certaine manière authentiques. Ça ne veut pas dire que les personnages disent la vérité, hein, mais ça veut dire qu'ils ont bien dit ça. Et donc, d'ailleurs, à la fin de chaque planche, il y a une petite astérix et en bas de page, il y a la source. Oui. Donc le lecteur qui me lit, il peut aller lire les œuvres complètes de un tel ou un tel, ou la correspondance entre Theodor Herzl et Youssouf Khalidi, parce que ça l'intéresse et que moi j'en ai mis seulement un extrait. Sur un sujet aussi sensible, sourcer les échanges et les dialogues et ce qui se passe dans cette histoire, c'est évidemment fondamental.
L'histoire de Jérusalem, donc ça c'est la BD, et puis il y a en parallèle ces podcasts qui ont été retranscrits en livre Israël-Palestine, anatomie, dans Conflit, 50 questions pour tout comprendre, et vous le disiez avec les dates clés qui se terminent en 7, j'ai pas tout retenu, mais évidemment nos auditeurs vont se plonger dans ce livre pour comprendre, parce que je pense qu'évidemment l'idée aussi d'aller à la rencontre de l'autre dans ce clivage dont on parlait en début d'interview, c'est peut-être aussi d'avoir des éléments d'un côté comme de l'autre et de pouvoir en parler de façon apaisé ?
Mais c'est le plus beau compliment qu'on m'a fait. C'est quelqu'un qui m'a dit, tu sais, j'ai appris beaucoup. C'était quelqu'un de d'origine juive qui m'a dit, j'ai appris beaucoup sur l'histoire musulmane et sur l'histoire chrétienne. J'ai des musulmans qui m'écrivent, qui me disent, mais je savais pas tout ça sur l'histoire juive et l'histoire chrétienne. C'est pareil pour des chrétiens. Et cette personne m'a dit, tu sais, on apprend des choses, mais on se sent accueilli dans cette bande dessinée. On se sent accueilli dans cette histoire.
Vous les embarquez avec vous.
À partir du moment où on se sent accueilli, on est prêt à écouter les histoires des autres. Voilà. C'est ça le but de cette bande dessinée. Maintenant, elle est traduite dans une dizaine de langues. On l'a traduite en hébreu, déjà. La semaine dernière, je dialoguais avec mon traducteur vers l'hébreu. L'édition en Israël est en cours. La traduction en arabe, on y travaille aussi. On a traduit en turc, en tchèque, en coréen. Voilà. Maintenant, cette BD, elle est complètement en dehors des frontières. Et puis, on est aussi en train de l'adapter en série animée pour la télévision. Et là, on pourra toucher un public encore plus jeune. Donc, c'est encore un autre défi, mais ça va être 2 ou 3 ans de boulot.
Et ça, c'est un autre support, parce qu'on parle toujours aujourd'hui de l'acceptation de l'autre, du vivre ensemble, et ça passe évidemment par l'éducation, et donc ça en fait partie. Vous, c'est la première fois que vous travaillez sur un support comme celui-là ?
BD, c'est ma première. C'est ma première, mais c'est pas la dernière, je crois.
C'est pas la dernière ?
Non, c'est absolument génial. C'est très, très, très chronophage. Moi, je pensais, mon éditeur me dit, tu vas faire une BD, il me dit, ça va aller vite, t'as déjà fait, c'est ton 10e livre sur Jérusalem, ça va aller très vite. C'est celui qui m'a pris le plus de temps. C'est presque 6 ans de travail, parce qu'en fait, écrire un livre d'une certaine manière, c'est pas très compliqué, on tape sur son clavier. Une bande dessinée, encore une fois, avec des dialogues, il faut aller les chercher avec une épingle à nourrice dans chaque source, et parfois je passais 3, 4, 5 jours pour rédiger une case ou 2 bulles. Quoi.
Est-ce qu'il faut que ce soit très précis, plus c'est court et
plus concis, c'est court, ouais, plus c'est précis sûr. Et plus ça doit être pertinent. On n'a pas le temps de bavarder, mais c'est ça, je pense, qui fait vraiment le plaisir de la lecture et le succès de cette BD en France et à l'étranger. Quoi.
Et on lui souhaite évidemment beaucoup de succès. Alors, je l'ai vu déjà sur des tables et beaucoup de gens autour de nous qui la lisent. Alors évidemment, dans la communauté juive, elle est bien accueillie, mais même
bien
ailleurs.
Sûr.
Mais même ailleurs, soyez-en certains. Vincent Lemire, je rappelle, vous êtes historien, spécialiste de l'histoire de Jérusalem, entre autres, évidemment. Vous êtes venu nous voir pour nous parler de cette bande dessinée Histoire de Jérusalem que vous pouvez trouver dans toutes les librairies. Elle est distribuée au niveau national et bientôt, on l'entend, européen et international. Et le deuxième livre, c'est la retranscription des podcasts que vous aviez édités avec France Inter. Et c'est un livre, Israël-Palestine, anatomie d'un conflit. Et c'est coécrit avec Thomas Snegaroff. Qu'est-ce qu'on vous souhaite ?
Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter de garder l'énergie pour ne pas tomber dans la conflictualité et ne pas rester le plus possible au-dessus de la mêlée, ce qui est mon métier d'historien.
Vous avez peur parfois ?
Non, je suis pas du tout un peureux. Parfois, peut-être même, j'ai peut-être pas assez peur, mais je suis pas comme ça. Non, je suis pas comme ça.
Contente de l'apprendre. Merci Vincent Lemire. À très bientôt.
Merci à vous.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.